Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis montpelliéraine, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une montpelliéraine pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Doudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.
Amis auditrices, amis auditeurs de Racontez-nous votre Montpellier, bonjour. Aujourd'hui, nous allons évoquer la liberté de manifester. Un sujet plus que jamais d'actualité. Les restrictions ou les interdictions par le préfet de l'Hérault de certaines manifestations de soutien à la Palestine pose la question de cette liberté de manifester. Même phénomène ces derniers jours à Martinique. De son côté, la Ligue de l'Homme organise le 12 octobre prochain à Montpellier une rencontre régionale sur le thème « Liberté publique » au pluriel, des droits à défendre et à développer. Les atteintes à la liberté de manifester, notamment, y seront débattues. Ce droit fondamental est pourtant parfois limité, contesté. Des manifestants peuvent être arrêtés. Qu'en est-il exactement ? Comment se comporter en cas d'arrestation ? Nous allons vous proposer des réponses en présentant les principes juridiques, puis des conseils pratiques afin de permettre à chacune et chacun d'exercer cette forme de citoyenneté. Pour nous en parler, j'ai invité Jean-Jacques Gandini. Vous êtes membre de la Ligue des droits de l'homme. Moi aussi, je l'indique au passage pour que tout soit clair. Avocat honoraire, vous avez été le président national du syndicat des avocats de France. Ici, vous avez animé l'Observatoire Montpellierain des libertés publiques et des pratiques policières, OLM. Nous verrons quel est son rôle et son fonctionnement. Mais d'abord, vous connaissez la formule de l'émission. Racontez-nous votre Montpellier. À votre tour d'apporter votre part au portrait de notre ville, brossé collectivement par petites touches successives, semaine après semaine. Donc, Jean-Jean Gandini, quels sont les lieux à Montpellier, connus ou méconnus, que vous appréciez particulièrement et auxquels vous êtes attaché?
Eh bien, il y en a trois, a priori. D'abord, pas très loin de chez moi, mais enfin, il faut marcher un petit peu, mais j'aime bien marcher. Et en parenthèse, d'ailleurs, c'est un des intérêts de Montpellier, c'est que c'est une grande ville, mais on peut, disons, la parcourir à pied lorsqu'on marche bien, sans avoir besoin d'un moyen de locomotion particulier. Donc, c'est le parc Méric. Le parc Méric, donc en bordure du Lez, avec dans ce parc où tout pousse, sans restriction, il n'y a pas de pelouse à la britannique,
oui,
si on peut dire.
Oui, il y a des prairies naturelles.
Voilà, et ça me plaît, oui. Il y a plein de bancs, on peut se poser et lire tranquille. Et d'un même ordre d'idée, c'est la raison pour laquelle j'apprécie également beaucoup, même s'il a été assez souvent fermé, maintenant ça va mieux, qui est le Jardin des Plantes, effectivement, au pied du Pérou. Et sinon, pour la vie sociale, eh bien, j'habite pas très loin de la place des Beaux-Arts. Et quand je donne un rendez-vous pour un café ou pour une discussion, eh bien, c'est au Café des Arts, justement, place des Beaux-Arts, qui est un quartier que j'apprécie également beaucoup. Voilà, étant entendu que je ne suis pas montpelliérain de souche, mais ça fait quand même bientôt 50 ans que j'y habite et j'ai vu l'évolution de cette ville.
Alors précisément, vous avez vu la ville se développer démographiquement, urbanistiquement. Sur ce point-là, donc, comme on dit souvent à la télé, les avis sont partagés. Je déteste cette expression. Mais bon, quel est votre avis? Comment un observateur attentif, un piéton de Montpellier, oui, vous avez vécu cette formidable mutation, oui, depuis une vingtaine d'années?
Formidable mutation, puisque oui, lorsque je suis arrivé en 1976, Montpellier, disons, se tirait la bourre, comme on dit, avec Nîmes. Et Béziers n'était pas très loin derrière, d'ailleurs, oui, à l'époque. Effet. Et puis bon, d'un seul coup, Montpellier a explosé. Et effectivement, donc a au moins triplé sa population, effectivement, en 40 ans. Et donc, tout en restant quand même une ville, disons, où on peut se promener et apprécier la ville en tant que telle, qui a cru, effectivement, de façon importante, mais en même temps, avec une vie, pour moi, culturelle, associative, sportive, importante et intéressante. Le bémol que je porterai, c'est au niveau justement de l'urbanisme, oui, un peu effréné qui s'est produit. L'avantage de la commune, c'est que c'est une grande commune, donc elle a la possibilité. Mais bon, notamment en allant sur le quartier, disons donc vers l'ouest, c'est-à-dire la Paillade, hein, le petit bar Celle-Neuve, c'est des quartiers qui sont un peu, il faut le dire, enfin, relégués, hein, et surtout où il y a au niveau habitat une véritable ghettoisation que justement en tant que Ligue des droits de l'homme, on a essayé, on continue d'essayer de combattre au niveau justement du logement indigne lorsqu'il a lieu pour essayer de faire en sorte que eh bien, les droits soient respectés aussi au niveau des locataires, parce que c'est vraiment des locataires qu'il y a là-dedans, et avec des conditions de vie parfois, on a pu voir évidemment les scandales liés à la Tour d'Assas et compagnie. Et donc, j'ai fait partie d'une association à l'époque qui s'appelait Habiter Enfin, qui a dénoncé justement ces lieux indignes. Et c'est passé d'ailleurs au tribunal, il n'y a pas très longtemps, en condamnant quand même des marchands de sommeil. Et je trouve que la ville là-dessus devrait être plus vigilante, même si je reconnais que la CM se bouge. La CM se bouge, c'est vrai. Mais sur. Et je dis bien en même temps Celle-Neuve, parce que j'aime bien Celle-Neuve comme quartier aussi. Je n'y vais pas souvent, mais quand j'étais en exercice, je faisais des permanences donc, à la maison de la justice et du droit qui est à Celle-Neuve. Et c'est un quartier également assez agréable, très mélangé, et qui vaut la peine d'être, justement, d'être reconnu. Parce que l'intérêt également de Montpellier, c'est ça, c'est ce mélange qui est un peu partout, et qui fait d'ailleurs que cette ville est devenue un peu, disons, une exception politique, puisque moi, quand j'ai connu Montpellier, c'était la ville blanche dans le midi rouge.
La tradition.
Et maintenant, c'est le contraire.
Voilà. Très bien. Alors voilà, donc, voilà quelques idées de promenade pour ceux qui ne connaîtraient pas les lieux que Jean-Jacques Gagnini nous a indiqués. Alors venons-en maintenant à notre sujet. Et d'abord, rappelons les fondamentaux. Sur quelle base, française et internationale, le droit de manifester a-t-il été instauré, puis renforcé, en tout cas juridiquement? Et en définitive, qu'est-ce qui donne ce droit à chacun de nous?
Oui, alors effectivement, il y a plusieurs sources au niveau du droit de manifester, hein, qui, il faut d'abord le rappeler, c'est la modalité de l'exercice de la liberté fondamentale, qui est la liberté d'expression.
C'est-à-dire une liberté plus générale,
voilà.
Et qui trouve une de ses applications dans le droit, voilà, d'exprimer son point de vue dans, voilà, la rue.
Et donc, à partir de là, il y a donc trois textes principaux, si on peut dire, deux français et un international. Hein, c'est d'abord la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen, hein, dont l'article 11 prévoit précisément la libre communication des pensées et des opinions est un des droits les plus précieux de l'homme. Tout citoyen peut donc parler, écrire, imprimer librement, sauf à répondre de l'abus de cette liberté dans les conditions déterminées par la loi. Et en même temps, le Conseil constitutionnel, justement, en France, le 4 avril 2019, l'a consacré comme un droit d'expression collective des idées et des opinions.
Alors ça, c'est une étape importante, hein, pas toujours connue d'ailleurs, qui institutionnalise encore davantage le droit de manifester dans les textes.
Voilà, en expliquant bien justement que la liberté, justement, au départ de d'expression et de manifester, c'est un droit individuel. Et là, c'est en même temps un moyen d'expression collectif pour bien montrer justement qu'on franchit un pas et qu'on peut très bien se réunir sans pour autant causer un trouble quelconque à ce niveau-là. Et c'est d'ailleurs ce que prévoit également donc l'article 11 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, qui dans un article 11 également prévoit « Toute personne a le droit de prendre part à des réunions pacifiques de créer des associations, y compris des syndicats, ou d'y adhérer. » Donc c'est un droit qui est spécifique, qui est reconnu, sachant que, je le rappelle au cas où, que la CEDH est une source de droit maintenant européen qui est intégrée dans le droit français, par conséquent, qui s'applique intégralement. Et également, bon, je ferai que le citer, hein, puisque c'est l'article 20 de la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948, qui protège tout simplement le droit de se rassembler pacifiquement. Par conséquent, ce qu'on peut dire, c'est que le droit de manifester, c'est la règle. Seule une interdiction motivée peut l'en empêcher. Il n'est pas d'ailleurs soumis à un régime d'autorisation préalable, mais simplement de déclaration.
Alors ça vaut le coup de s'arrêter, je crois, une seconde là-dessus, parce qu'on a l'idée que pour manifester, il faut d'abord demander l'autorisation à monsieur le préfet ou à madame la préfète pour pouvoir manifester.
Justement, non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas puisque simplement, il faut à ce moment-là déclarer qu'on va faire une manifestation, Et d'ailleurs, il y a un délai, hein, il faut entre 3 et 15 jours avant la manifestation le déclarer. Si parfois le délai n'est pas respecté, dans certaines circonstances, le préfet peut quand même l'accepter à ce niveau-là. Et lui, par contre, il a jusqu'au dernier jour pour éventuellement l'interdire. Sachant que si on participe à une manifestation qui n'est pas autorisée, mais qui n'est pas interdite, eh bien, on peut y participer sans risque, et simplement celui qui appelle à la manifestation peut lui encourir une amende.
Parce qu'il n'a pas rempli la procédure.
Parce qu'il a rempli la procédure, mais on lui a dit que la manifestation n'est pas autorisée. Mais si elle est interdite, spécifiquement, à ce moment-là, eh bien, si on participe à une manifestation interdite, là, on risque, en tant que participant, une amende, et celui qui appelle à la manifestation ou l'association risque à ce moment-là, elle, une peine de prison avec sursis. Et c'est là qu'intervient le problème pratique. Comme je disais tout à l'heure, le préfet peut, jusqu'au dernier moment, interdire la manifestation, mais avant, si on peut dire il y a encore quelques années, il le faisait, disons, la veille ou, disons, le matin.
Et là, maintenant, dernier moment.
Voilà, et maintenant, pratiquement au dernier moment, donc c'est quasiment impossible pour la personne ou l'association qui appelle la manifestation de saisir ce qu'on appelle en référé, puisqu'il y a une possibilité de saisir en référé suspension le tribunal administratif pour demander à ce que l'interdiction soit suspendue. Et on a pu voir récemment, à Montpellier, des affaires dans lesquelles, justement, eh bien, le préfet, par un malin plaisir, on peut dire, interdisait à dernière minute, et donc dans certains cas quand même, la Ligue des droits de l'homme, notamment, s'est emparée de l'affaire et a pu obtenir des leviers de manifestation. Et d'autres cas, ça, on s'y est pris c'était trop tard.
C'est-à-dire, voilà. ça ferme la porte aux voies de recours.
Voilà, ça ferme la porte aux voies de recours. Donc, c'est important de voir que ce qu'on disait à l'instant, c'est qu'il y a une théorie et il y a une pratique.
Alors, dans cette pratique, justement, est-ce que, bon, prenons du recul un peu sur ces dernières années, pas seulement à Montpellier, est-ce qu'on peut dire clairement qu'il y a eu sous des formes diverses, des textes, leur interprétation, la position des tribunaux, des reculs, en tout cas des atteintes manifestes, si c'est un jeu de mots, à ce droit.
Oui, effectivement, on s'est rendu compte que même le Conseil d'État, pour raison d'État, parfois, eh bien, estimait qu'effectivement, il y avait une atteinte à la liberté de manifester, mais qu'elle n'était pas suffisamment caractérisé et il faisait prévaloir la notion d'ordre public.
Voilà, qui est dans...
Le fameux ordre public, voilà. Qui est une véritable tarte à la crème, parce qu'on peut mettre tout et n'importe quoi dedans. Et donc, parce que le problème de l'ordre public, préserver l'ordre public, c'est au moment où ça se passe. Donc, c'est la façon dont le préfet va estimer que la manifestation qui va se dérouler, eh bien, pour lui,
Il y a
un risque important, et on l'a bien vu très récemment avec toutes les manifestations par rapport à la Palestine, dans la mesure où c'est effectivement un conflit très prégnant et très exacerbé des deux côtés, eh bien, il estime que s'il y a une manifestation justement pour appeler à la Palestine, il risque d'y avoir des contre-manifestants ou des manifestants qui vont aller plus loin que simplement manifester, et donc, par mesure d'ordre public, préventivement, il interdit la manifestation. Alors que normalement, dans un régime d'état de droit, eh bien, on doit laisser se dérouler les choses et éventuellement les sanctionner s'il y a un dérapage.
En cours,
c'est ça.
Pendant la manifestation.
On agit a posteriori.
Pas préventivement.
Voilà, agir préventivement, c'est un peu un relent de régime autoritaire.
C'est ça, d'autorisation, en fait.
D'autorisation, de fait, et où, par conséquent, eh bien, il faut vraiment montrer patte blanche et, de ce côté-là, ne pas prêter risque à quoi que ce soit. Et donc, cette interprétation, il y a quelque temps, était quand même assez souvent quand même en faveur des manifestants. Et ces derniers temps, il faut le dire,
la situation s'est dégradée.
S'est dégradée, et même le Conseil d'État, eh bien, a tendance, maintenant, à privilégier justement cette fameuse notion d'ordre public. Et je voudrais juste, à ce niveau-là, pour parler sur une manifestation, j'ai trouvé, ce sera très court, une petite citation dans le monde diplomatique du mois de juin, qui s'appelle « La passion d'interdire », Voilà ce qu'il disait en janvier 2015, à la veille des immenses manifestations de solidarité consécutives à l'assassinat d'une partie de la rédaction de Charlie Hebdo, le dessinateur Luz s'interrogeait. Dans un an, que restera-t-il de ce grand élan, plutôt progressiste, sur la liberté d'expression ? Le monde diplomatique. Un an plus tard, on connaît la réponse. Interdiction de manifester, annulation de conférences publiques, déprogrammation d'artistes et d'intellectuels, sanctions contre les humoristes, prescription de slogans scandés depuis des décennies, suspension de subventions publiques à des établissements universitaires jugés trop indulgents envers des étudiants solidaires des Palestiniens, rythme l'actualité. À cela s'ajoute l'intimidation judiciaire. En avril dernier, plusieurs personnalités politiques d'opposition ont été convoquées par la police dans le cadre d'une enquête pour apologie du terrorisme et un responsable syndical condamné à un an d'emprisonnement pour le même motif.
Donc, voilà la situation. Ça montre bien qu'il y a une dégradation.
Alors,
on va profiter de votre double expérience, votre double légitimité à venir à ce micro. Le juriste, attentif, on l'a vu aussi, celui comme d'autres qui est sur le terrain, qui est, voilà. Fait partie ou a fait partie des observateurs. Donc là, la structure qui assure ce travail s'appelle, donc je le rappelle, l'Observatoire Montpellierin des libertés publiques et des pratiques policières. Alors, à quoi ça sert? Comment cette structure est-elle née? Comment fonctionne-t-elle? Et surtout, selon quel principe, de rigueur, je dirais, elle agit?
Tout à fait. Alors, tout d'abord, rappeler, comme tu l'as dit, vous l'avez dit à l'instant, c'était l'Observatoire des libertés publiques et des pratiques policières de Montpellier a été créé en mars 2021 et il a pris la suite de ce qu'on appelait à l'époque la Legal Team de la Ligue des droits de l'homme qui a été créée, elle, au lendemain de l'attaque par un commando de la fac de droit, le 22 mars 2018. Et, à la différence de la Legal Team, qui n'était que la Ligue des droits de l'homme, l'Observatoire avait et a toujours pour vocation de s'ouvrir à d'autres associations. Lorsqu'il s'est créé, donc, c'est moi qui l'ai créé, à ce moment-là, en mars 2021, il regroupait quatre organisations. La Ligue des droits de l'homme, le Syndicat des avocats de France, le collectif Stop Armes Mutilantes, et la Confédération nationale du travail. À partir de là, sur quelle base fonctionne un observatoire? Eh bien, c'est la Cour européenne des droits de l'homme qui, dans un arrêt du 14 avril 2009, a jugé que les observateurs assument, je la cite, un rôle de chien de garde social. Il s'agit, comme le prévoient également les textes européens, de respecter et de protéger les observateurs citoyens indépendants, ainsi que l'a constaté par lui-même le haut commissaire du Commissariat des droits de l'homme et des Nations Unies, qui leur reconnaît un rôle éminent pour la protection de la liberté de réunion. Et à ce sujet, donc l'OLM fait partie d'un groupement interobservatoire d'une douzaine d'autres observatoires en France, notamment les plus proches sont à Marseille et à Toulouse, et qui a obtenu en 2021 le prix justement de la fierté civique du Forum civique européen qui regroupe une centaine d'associations engagées dans les questions de protection des droits de l'homme, du civisme et d'éducation.
Alors comment ça se passe?
Concrètement, racontez-nous,
voilà, il y a une manifestation qui est prévue.
Alors une manifestation est annoncée. Première chose, nous annonçons directement par courriel à la préfecture que nous allons intervenir en tant qu'observatoire. Et pour que l'observatoire fonctionne, il faut qu'il y ait au moins deux membres présents. Deux membres présents et siglés. Nous avons une chasuble, OLM, pour simplifier, c'est Observatoire Liberté Montpellier. Et on se positionne toujours, selon le nombre qu'on est, devant la manifestation, ou devant et derrière, mais jamais dans la manifestation. On est toujours sur les côtés, soit à gauche, soit à droite, pour justement être là en tant qu'observateur.
Voilà. Vous n'êtes pas manifestant, y compris si vous pouvez avoir des sympathies pour ces manifestants, mais en tout cas, vous vous distinguez d'eux.
On se distingue d'eux et on n'intervient pas, bien évidemment, dans le cadre de ce qui peut se dire dans la manifestation, des slogans qui peuvent être... On est là pour vérifier que les choses se passent correctement et on est donc, en fait, avec... soit des portables, téléphones portables, soit des caméras directement GoPro, pour pouvoir filmer, photographier et vérifier ce qui se passe, à la fois au niveau des manifestants et en même temps au niveau des forces de police. Parce que je rappelle, et c'est important à ce niveau-là, qu'on doit vérifier que la police se comporte correctement au niveau de sa propre façon de procéder, à savoir que les policiers, normalement, doivent pouvoir être identifiés, puisque justement s'il y a un dérapage quelconque dans un sens comme dans l'autre, il faut savoir qui est qui. Or, la loi prévoit que les policiers doivent porter ce qu'on appelle un RIO, c'est-à-dire un référentiel des identités et de l'organisation. Ce RIO, qui est un décret de 2013, est obligatoire. Mais il est pratiquement peu porté, en pratique. Et le Conseil d'État que nous avons saisi, nous, enfin, Ligue des droits de l'homme et d'autres associations, le 11 octobre 2023, a mis en demeure le ministère de l'Intérieur de mettre en conformité les policiers avec ce RIO d'ici un an. Un an, c'est quand ? C'est le 11 octobre, dans trois semaines.
Alors, très bien. Alors, le temps file. Il faut en venir quand même au guide du manifestant arrêté, donc, voilà. Sur lequel on va apporter quelques lumières.
Voilà.
Donc, c'est un petit livret de petit format, 70 pages. Il explique les droits des manifestants et le déroulement des procédures et propose des conseils précis pour savoir comment réagir face à plusieurs situations. Alors, on va en retenir trois. On vous contrôle. Sur une manifestation, on vous arrête, on vous reproche une infraction. Alors, commençons par on vous contrôle. Quelle est la bonne attitude ?
Alors, quand on vous contrôle, effectivement, eh bien, il faut rester calme, obéir, disons, à la façon dont le policier veut vous contrôler, mais sans pour autant rester, disons, à dire amen à tout ce qui va se passer. Parce que le policier, il ne peut pas vous contrôler pour n'importe quoi et n'importe comment. Par conséquent, il faut d'abord qu'il peut demander à vérifier votre identité. Si vous êtes dans un endroit où il y a un risque de trouble d'ordre public, et où par conséquent, eh bien, ils sont en droit de demander qui vous êtes, etc. Et à ce moment-là, cette vérification, si c'est un Français, ben c'est par tout moyen. On n'est pas obligé d'avoir sa carte d'identité sur soi, c'est tout document d'identité avec une photo qui est suffisante. Et si on est étranger, eh bien, il faut bien sûr la carte de séjour ou le passeport ou un récépissé de demandeur d'asile. Voilà. Ça, c'est la théorie. Parce qu'en fait, lorsqu'on est appréhendé, eh bien, parfois, on se pose la question. Et donc, dès que le policier, à ce moment-là, cherche à vous appréhender et à vous fouiller, eh bien, il faut, à ce moment-là, rester statique, on peut dire, mais dans la mesure où on pose la question « pourquoi je suis contrôlé ?», comme je disais à l'instant, on peut être contrôlé n'importe quand ni n'importe comment, eh bien, le policier va avoir tendance à ce moment-là à vous serrer d'un peu près. Et si vous réagissez, c'est à ce moment-là qu'intervient la fameuse rébellion.
Rébellion.
Et en même temps, l'outrage, soi-disant en même temps que vous parlerez mal aux policiers,
c'est-à-dire
etc.
Des comportements qui sont litigieux, qui peuvent être l'objet de condamnation à terme.
C'est ça.
Et qui sont fréquents, en définitive. Parce que,
ils sont aléatoires. C'est-à-dire qu'ils sont décorrélés du comportement de la personne. Tout dépend où ça se passe. Et comme par hasard, très souvent, ces contrôles se font, il faut dire les choses telles qu'elles sont, au faciès. Il y a souvent des gens qui sont contrôlés plus que d'autres. Et d'ailleurs, vous parliez à l'instant du syndicat des avocats de France. C'est à l'époque où j'étais en exercice, justement, en tant que président, qu'on a lancé une procédure dans la Cour de cassation. Et on a un arrêt de la Cour de cassation du 9 novembre 2016 qui reconnaît que dans certains cas, eh bien, il y avait eu des contrôles au faciès à Paris. Et pour ça, le ministère de l'Intérieur a été condamné. Par conséquent, il y a quand même des réactions qui se passent. Il ne faut pas se laisser faire. Mais en même temps, au départ, il est normal d'obéir effectivement à la loi et de se comporter régulièrement si tout se passe bien, mais on a des droits et il faut les faire valoir. Et de ce côté-là, on voit très souvent justement le problème en matière de manifestation, où au moment de faire la manifestation, on va vous appréhender juste avant en disant « attention, on va vous contrôler parce que soi-disant vous porteriez des objets, quoi que ce soit, qui pourraient porter préjudice ». Et pour la petite histoire, la loi en question qui encadre ces manifestations, c'est la loi du 10 avril 2019. Quel est son nom ? La loi Retailleau. Qui va dire beaucoup de choses.
Voilà notre nouveau ministre de l'Intérieur.
Qui à l'époque avait des sévis puisqu'à l'époque, il était, disons, président du groupe LR au Sénat.
Au Sénat, oui.
Donc, la loi Retailleau du 10 avril 2019, effectivement, c'est elle qui encadre les manifestations et qui prévoit justement comment les policiers peuvent, effectivement, visuellement fouiller les bagages, etc.
Alors ça, voilà. On va voir, parce qu'il a fait ses premières déclarations à la passation là, ce matin. Et il a dit rétablissement de l'ordre.
Voilà.
Alors, deuxième cas de figure, avançons. Voilà, un manifestant est arrêté.
Voilà,
on vous arrête. Même chose, comment faut-il réagir à ce moment-là?
Eh bien, lorsqu'on vous arrête, à ce moment-là, justement, comme je disais à l'instant, il faut obtempérer, parce que c'est là qu'arrive justement le risque de se retrouver avec une rébellion, selon comment on se comporte à ce niveau-là. Et en même temps, donc, lorsqu'on se fait embarquer, eh bien, normalement, le policier doit vous embarquer, mais non, sans plus. On ne peut mettre les menottes que si, effectivement, vous êtes en état de surexcitation éventuellement, ou si c'est le seul moyen de vous...
Ou à fortiori, si vous portez un coup sur les policiers.
Mais oui. le port des menottes, qui est quasiment automatique, etc., n'est pas prévu comme cela. C'est uniquement au cas où le comportement de la personne n'est pas correct. Donc, il y a déjà beaucoup à dire par rapport à ça. Et en même temps, une fois qu'on est embarqué, eh bien, à ce moment-là, bon, commissariat. Et là, à ce moment-là, au commissariat, on doit vous mettre en garde à vue. Sinon, si on ne vous met pas en garde à vue, on doit vous relâcher. On vous met en garde à vue parce qu'on vous soupçonne d'avoir commis une infraction. Hein. Et à ce moment-là, on vous met en garde à vue. Pourquoi ? Parce que, soi-disant, eh bien, parce qu'il faut garantir votre représentation, il y a des investigations à faire, il faut préserver des preuves, etc., ou des pressions. Et donc, on va vous mettre en garde à vue. Alors, juste un principe de base très rapide là-dessus. Pensez à la locution AMI, A-M-I-S. Vous êtes mis en garde à vue, vous avez droit à un avocat. Droit de privé d'un avocat.
Comme
vous avez droit à un médecin.
Comme
droit de médecin. Vous avez droit également à un médecin et de la famille. Et la famille, c'est soit vos parents, soit votre femme ou votre compagne, soit une personne de confiance, simplement, si vous n'êtes pas d'amis, de femme, etc. Ensuite, I, c'est informé, c'est-à-dire vous devez savoir pour quel motif vous êtes interpellé. Et enfin, S, c'est le silence. Vous avez droit de vous taire parce qu'il est conseillé de ne pas parler tant qu'on n'a pas pu voir un avocat, s'être entretenu avec lui, parce que lui, il peut avoir accès au moins au dossier minimum et savoir ce qu'on vous reproche.
Bien sûr.
Voilà. Donc, c'est très important.
Donc, voilà. Et bon, ça, c'est les principes de base.
Voilà.
Donc, le petit opuscule nous présentons, le guide manifestant arrêté, édité par le syndicat de la magistrature, est un syndicat important qui rassemble en gros un tiers des magistrats et qui milite pour une justice indépendante, protectrice des libertés et égale pour tous. Et donc, on peut glisser ce petit document dans sa poche.
Oui, absolument.
Pour l'avoir, pour les manifestations. Alors, dernière question, Jean Gandini. Quand on se penche sur les manifestations, il y a un phénomène frappant sur l'attitude des autorités. Au lieu de susciter la fierté partagée que nous soyons dans un pays où la liberté de manifester est un droit reconnu, une forme importante de la démocratie, les manifestations sont très souvent considérées comme des attaques illégitimes contre le pouvoir qui justifierait que celui-ci fasse beaucoup pour démontrer qu'elles sont illégales. Comment expliquez-vous cette réaction, cette attitude des autorités par rapport au droit de manifester ?
Je ne l'explique pas, je la constate. Hein. Simplement, c'est ce qu'on disait au départ, on vit dans un régime normalement de liberté qui est la règle, et l'exception, c'est l'interdiction. Mais là, on se heurte effectivement au problème de l'ordre public. Et les gouvernants, depuis certains temps, ont l'impression, ou du moins veulent nous faire croire, que le fait de manifester, eh bien, ça serait mettre en cause leur action, quelque part, et par conséquent, qu'on estime leur action illégitime. Ce qui n'a rien à voir. On peut manifester simplement pour des idées, pour remettre en cause un nombre de choses, sans pour autant mettre en cause le gouvernement en tant que tel, mais la façon dont il procède en estimant qu'elle n'est pas conforme à ses idées. Les idées telles que les gens peuvent les pratiquer, et c'est d'ailleurs ce que prévoient, disons, les textes, peuvent très bien être dérangeantes, différentes, etc., tant qu'elles-mêmes ne sont pas contraires à l'ordre public, justement contraires aux grands principes de droit, c'est-à-dire justement l'important, c'est de pouvoir avoir des opinions, mais pas de stigmatiser, notamment la discrimination, la xénophobie, la haine de l'autre, etc. Tout ça est prohibé et est contraire, effectivement, à la loi. Donc là, si on est dans ce sens-là, voilà. Mais ce n'est pas le cas. Là, simplement, le pouvoir a l'impression qu'on le met en cause en tant que tel. Et là, eh bien, justement, on reste un peu sidéré et on n'a pas de réaction vraiment précise pour répondre, si ce n'est de continuer à vouloir manifester pour faire valoir son bon droit.
Très bien, je vous remercie Jean-Jacques Gandini. Alors, pour finir, je rappelle la rencontre sur le thème « Liberté publique, des droits à défendre et à développer » organisée par la Ligue Droits de l'Homme le 12 octobre prochain de 14 à 19 heures à Montpellier, salle Guillaume de Nogaret, place du professeur Mirouz, près du Pérou. Outre la liberté de manifester, la liberté associative et syndicale et la liberté d'informer et de s'informer, les libertés pour la jeunesse y seront débattues dans des tables rondes successives. La présidente nationale de la Ligue des droits de l'homme, Nathalie Théos, mettra ces sujets en perspective. Ce sera sa première venue à Montpellier depuis son élection en mai dernier. Amis auditrices, amis auditeurs, à la semaine prochaine.
Racontez-nous votre Montpellier.
On se trouve ici à Montpellier.
Quels sont les lieux, y compris hors de l'Écusson, qui ne figurent pas sur les cartes postales, que vous aimez particulièrement et auxquels vous êtes attachés ?
Ce qui reste aujourd'hui pour moi, qui suis Montpellier-Rennes, c'est Antigone.
Racontez-nous votre Montpellier.
Et vous l'avez compris, effectivement, mon quartier de naissance, c'est Saint-Roch.
Donc vous êtes une Montpellier-Rennes, pur jus.
Ben Montpellier, pour moi, c'est une histoire qui m'a jamais quitté.
Une émission proposée par Alain Dudiès pour partir à la rencontre de Montpellier et des Montpelliérains.